Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
7h48 sur Sud Radio, l'invité du petit déjeuner politique, c'est Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, candidate au régional en Ile-de-France sur la liste de Laurent Saint-Martin. Bonjour Nathalie Elimas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est aujourd'hui que débute la vaccination pour l'ensemble des enseignants, quel que soit leur âge. Combien de professeurs se sont fait vacciner à ce jour? C'est quoi les derniers chiffres qu'on a actuellement?
Alors, dans la première mouture, si je puis dire, donc on a procédé par critères. Il y avait un critère d'âge, plus de 55 ans. Il y avait aussi un critère d'exposition, puisqu'on a favorisé, privilégié nos professeurs et personnels qui travaillent avec des enfants en situation de handicap, parce que les gestes barrières, c'est moins facile, ou des enfants en école maternelle. Notre cible, alors, était d'environ 170 000 professeurs, et on était à 30 000 professeurs, alors, qui s'étaient fait vacciner.
Ça veut dire que c'est encore peu, il y a une défiance encore, justement, de la part du corps enseignant par rapport à cette vaccination?
Évidemment, il y a eu la polémique sur l'AstraZeneca, que tout le monde connaît, et puis rappelons que la vaccination n'est pas obligatoire, elle est proposée. Et ce chiffre-là que je vous ai donné, c'est ce que nous connaissons, c'est la remontée que nous en avons. Mais vous savez que la vaccination, comme je le disais, était ouverte même avant d'ailleurs, et nos professeurs qui souffraient de comorbidité ont pu aller se faire vacciner. Enfin, il y avait aussi des professeurs qui sont allés plus tôt bénéficier de doses restantes. Donc finalement, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose.
Sur les enseignants, est-ce que ça n'a pas été trop tard, justement pour les plus jeunes en tout cas, de pouvoir leur autoriser l'accès à cette vaccination en tant que profession prioritaire avec des enfants? On sait que certains élus de terrain l'avaient demandé assez tôt.
Moi, je crois que ce qui nous honore dans la gestion de cette crise, c'est d'avoir, encore une fois, choisi de travailler par priorité. Les plus vulnérables d'abord, nos aînés, et on voit bien d'ailleurs que ça va beaucoup mieux dans les EHPAD, les gens souffrant de comorbidité, et on a avancé comme ça. Donc aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'on puisse vacciner nos professeurs et nos personnels. Effectivement, c'est ouvert à tous aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont pu prendre rendez-vous dès vendredi prochain. Et ça n'est pas tout ce que l'on fait dans nos établissements, puisque je rappelle qu'on a aussi et toujours des protocoles sanitaires. On ferme une classe dès qu'il y a un cas dans la classe.
On en est où d'ailleurs au niveau des fermetures de classes et d'établissements?
5000 classes étaient fermées la semaine dernière. C'est un peu moins de une classe pour 1000.
Sur les jeunes aussi, quand on parle de vaccination, sur les 16-18 ans, on voit le monsieur du gouvernement, vaccin du gouvernement, Alain Fischer, qui affirme que l'ensemble des jeunes de 16 à 18 ans pourraient avoir droit au vaccin à partir du mois prochain déjà. C'est-à-dire que ça pourrait se faire dans le milieu scolaire?
Alors, dans le milieu scolaire, je ne sais pas. Sur l'ouverture de la... Vous savez, le sujet de la vaccination, c'est un sujet compliqué, notamment quand il s'agit de nos enfants mineurs. Moi, je l'ai vu quand j'étais encore députée à l'Assemblée nationale, quand le débat est arrivé de la vaccination obligatoire. Des 11 vaccins, ça a été assez difficile. Donc, c'est un sujet un peu sensible. On ouvre la vaccination à tous, probablement aux plus jeunes. Dans le milieu scolaire, là, je ne sais pas vous répondre. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Non, pas du tout.
En ce qui concerne les élèves de 4e et 3e, on sait que dans 15 départements encore, les classes sont en demi-jauge avec des conséquences potentielles sur le brevet. Certains parents s'en inquiètent. Est-ce que ces demi-jauges vont être maintenues jusqu'à la fin de l'année scolaire?
Alors, c'est la crise sanitaire. C'est la circulation du virus dans le pays qui dicte ces règles. Donc, depuis le 3 mai, tous les élèves sont en classe. En élémentaire, ils sont en classe tous les jours. Dans les lycées, ils sont en demi-jauge. Dans les collèges, sur 15 départements, en effet, ils sont en demi-jauge sur les classes de 4e et 3e. Et vraiment, c'est la circulation du virus qui fait que nous nous adapterons ou pas, que nous remettrons tous les élèves ou pas en classe entière. En tout cas, pour la préparation du brevet, je rappelle quand même qu'on a une belle mesure qui peut aider nos élèves. C'est le dispositif « Devoirs faits ». Qui aide vraiment ces élèves de collège à préparer le brevet, et vous dire aussi que j'ai souhaité le déployer autrement pour qu'il soit accessible à tous nos élèves, notamment en devoir fait à distance, en mettant en face de nos élèves toujours des professeurs, mais également depuis le 10, des étudiants que nous connaissons, qui travaillent avec nous dans les cordées, qui travaillent avec nous auprès de nos élèves. Et c'est une façon à la fois d'accompagner au mieux nos collégiens dans la préparation du brevet, mais également de lutter contre la précarité des étudiants, puisque c'est une nouveauté. Désormais, ces étudiants qui vont nous aider à accompagner nos collégiens dans la préparation, encore une fois, de cet examen, vont être rémunérés.
Vous parlez justement de la question de la précarité, autre sujet qui vous concerne tout particulièrement, Nathalie Elimas, en tant que secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. C'est le lancement demain du printemps des cités éducatives. L'idée, c'est quoi? C'est de redonner un avenir à de nombreux jeunes dans les quartiers, C'est de faire son retour, justement, du côté de l'éducation dans les quartiers.
C'est exactement ça. Les cités éducatives, en fait, c'est une façon de travailler, c'est une alliance éducative, c'est mettre tout le monde autour de la table dans un quartier. Quand je dis tout le monde, c'est l'école, ce sont les élus, c'est l'État, c'est tout le tissu associatif, c'est la culture, c'est le sport, c'est le sanitaire, c'est le social. Et c'est aussi les acteurs du monde économique pour accompagner nos enfants, nos jeunes adultes, puisque c'est du 0-25 ans, sur tout leur parcours scolaire et en dehors de l'école.
Un suivi global,
c'est un suivi global.
Elles ont été créées en 2019, on en a combien aujourd'hui? Ça concerne combien de jeunes?
Alors, elles ont été créées en 2019. Effectivement, il y avait 80 cités éducatives quand j'ai été nommée l'année dernière. On en a aujourd'hui 126, puisqu'on a labellisé 46 nouvelles cités éducatives. Et surtout, on a un objectif, c'est de labelliser 200 cités éducatives d'ici l'année prochaine. Il y aura donc une troisième vague. Je le dis pour les déçus, parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes quand on ouvre, quand on fait l'appel à projet. Et donc, il y aura 200 cités éducatives labellisées l'année prochaine. Il y a une forte dotation et un fort accompagnement de l'État en ce sens. Et on a de très, très beaux projets sur l'ensemble de nos territoires, avec, encore une fois, quel que soit le projet, c'est vraiment du pilotage territorial, ça n'est pas descendant. Quel que soit le projet, l'idée, c'est d'être présent autour de nos élèves, de nos jeunes et encore une fois de nos jeunes adultes en tout temps.
Justement, pour ceux que ça intéresse, cette nouvelle vague de labellisation, elle aura lieu quand? Est-ce qu'on a un peu une idée?
Alors, nous allons faire remonter les dossiers au mois de juin. Donc là, c'est un travail qui se fait en partenariat entre le recteur et le préfet. Et nous devrions annoncer la labellisation de ces nouvelles cités éducatives à l'automne prochain.
Après les drames qu'on a malheureusement pu voir ces derniers jours, qu'on a vécu, ces cités, elles sont aussi victimes d'agressions. On les a vues, d'agressions. On a des agressions au couteau. On a des agressions au couteau qui partent de simples embrouilles sur Snapchat. Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, au collège, au lycée, d'éduquer nos jeunes sur la question des réseaux sociaux et de la violence?
Alors l'éducation, vous savez, je crois que l'école peut beaucoup, l'école fait beaucoup, mais il faut aussi rappeler aux parents quel est leur rôle et quelle est leur place. Et justement, à travers ces cités éducatives, c'est un dispositif parmi tant d'autres, mais puisqu'on est dessus, c'est l'occasion aussi pour nous de travailler sur la parentalité. Typiquement. À l'école, évidemment, que l'on a une éducation au réseau, aux médias, au numérique, ça, on y travaille, nous, avec nos élèves. Mais il faut aussi que les parents reprennent toute leur place. Et moi, mon objectif, c'est de faire à nouveau entrer les familles dans l'école, qu'elles reprennent aussi leur place dans l'école. Ça a été un petit peu difficile du fait de la situation sanitaire, mais j'espère que ça ira mieux à la rentrée.
C'est-à-dire que c'est aux parents aussi de prendre leurs responsabilités sur ces sujets-là?
Absolument, bien sûr.
Nathalie Limas, vous êtes autre sujet, candidate au régional sur la liste de Laurent Saint-Martin, donc en région Île-de-France. Selon notre sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio, le candidat de la majorité n'arrive qu'en troisième place, 15%, contre 33% pour Valérie Pécresse, 16% pour le RN Jordan Bardella. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité n'y arrive pas, ça ne prend pas pour ces régionales?
Vous dites troisième place, mais vous oubliez de dire qu'on vient de prendre plus de 4 points. Dans les sondages. Donc la dynamique, elle est là, elle s'installe. C'est vrai que Laurent Saint-Martin a peut-être un déficit d'image parce qu'il est moins connu, évidemment, que la présidente sortante. Pour autant, on a un très beau projet. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, redire et marteler, c'est que Laurent Saint-Martin est candidat à la région et rien qu'à la région. Ce qui n'est pas le cas de la présidente sortante qui, finalement, va faire de ce temps des régionales un marchepied pour autre chose, c'est-à-dire pour la présidentielle. Donc ça, il faut évidemment le redire. Demain, nous allons annoncer aux franciliens notre projet. Vous verrez que c'est à la fois un projet qui est très concret, qui répond très concrètement aux attentes et aux besoins des franciliens, mais qui est également ancré dans la durée, dans le temps. Il y a aussi une vision dans le projet et dans le programme de Laurent Saint-Martin, ce qui n'est là encore une fois pas le cas de ce que souhaite faire la présidente sortante. J'ai été élue avec elle pendant 5 ans, j'ai été loyale, d'ailleurs j'ai voté le dernier budget sans aucune difficulté puisque c'était mon contrat de mandature. Mais sur ces 5 années, eh bien, il y a eu 2 ans pendant lesquels on a beaucoup travaillé et puis 3 ans pendant lesquels on a fait que de la gestion. Alors pendant ce temps-là, c'est vrai qu'elle organisait, elle montait son mouvement, peut-être qu'elle se préparait aussi pour les présidentielles, mais en tout cas ça n'est pas ce dont ont besoin les franciliens et puis surtout les régions elles sont un formidable levier, un formidable outil de la relance.
Mais comment expliquons-nous, on doit s'y consacrer à 100% qu'on ait 15 membres du gouvernement qui soient justement candidats sur, dont vous, sur ces élections régionales, départementales? J'imagine que dans le contexte actuel, vous avez d'autres choses, d'autres dossiers à traiter, à gérer.
Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je travaille beaucoup, je me déplace beaucoup et je vais continuer à le faire. Simplement, je vais peut-être un petit peu moins dormir. Ensuite, 15 membres du gouvernement sont en campagne. Quand on n'est pas en campagne, on nous dit qu'on est complètement déconnecté des réalités. Quand on est en campagne, on nous dit « Oh là là, mais vous lâchez vos dossiers, vous êtes en campagne. » Mais vous savez, faire campagne, c'est faire de la politique. Voilà, une élection, c'est faire de la politique. On est très heureux de le faire, en tout cas. En ce qui me concerne, je suis très heureuse de le faire. Depuis que je suis au gouvernement, je me déplace chaque semaine. Deux fois par semaine, je vais sur les territoires, dans le cadre, dans le champ de mon périmètre ministériel. Et bien là, je vais le faire un peu plus dans mon département, département du Val-d'Oise, qui est un département qui est enclavé, qui est le département le plus jeune de France, qui mérite qu'on s'y attelle, qu'on s'y attache. Et donc, je vais le faire avec beaucoup de plaisir.
Dernière question, je ne sais pas si je vais vous fâcher là-dessus, mais est-ce qu'une alliance possible au second tour avec Valérie Pécresse est envisageable ou alors c'est niette pour la majorité, bien sûr.
C'est bien de parler du second tour, mais c'est toujours mieux d'arriver le mieux et le plus haut possible au premier tour. Donc c'est exactement ce que l'on est en train d'essayer de faire. On travaille vraiment à remobiliser l'électorat d'Emmanuel Macron, l'électorat Renaissance, encore une fois, avec un programme, un projet qui est très concret, qui est réaliste, qui est chiffré et qui sera dévoilé demain. Et surtout, la volonté de ne pas opposer, c'est exactement ce que fait la sortante, de ne pas opposer la région à l'État, mais de travailler ensemble à la relance de l'économie, parce que c'est ce que méritent les Franciliens.
Merci beaucoup Nathalie Limage, je rappelle, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, également candidate donc au régional Île-de-France sur la liste de Laurent Saint-Martin. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Allez, Sud Radio, 7h59, dans un instant, c'est le retour des infos avec Félix Mathieu, et puis on parlera de la situation dans un quartier bordelais, du côté du Bacalan, où un variant anglais a été découvert avec ce cluster à ses 19 000 doses qui vont être débloquées, donc pour ce quartier. Restez bien avec nous dans le grand matin.